Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Excusez-moi de ce petit retard au démarrage, mais voilà, l'atout qui arrive juste avant de prendre l'antenne. Parce que vous m'impressionnez, voilà Célia, vous êtes là en face de moi et je suis perturbé par tout ça. En plus j'ai le programme sous les yeux, ça va être encore très intéressant. Comment ça va?
Bah ça va et vous? Bah, très bien.
En pleine forme, je vous dis en pleine forme, la sphère neuro, ça fait déjà rien que le nom de l'émission, on a l'impression d'être intelligent. Ouais, la sphère neuro, ah oui, j'écoute la sphère neuro. Quand vous dites à vos amis, j'ai écouté la sphère neuro, ah ouais, quand même. Ouais, c'est pas genre j'ai écouté Motus ou la sphère neuro, quand même. On sait que c'est quelque chose de haut niveau. Et quand on sait que c'est Célia Morès, c'est en face de vous ou dans vos oreilles, eh bien, on est d'autant plus ravis. Cette semaine, vous allez nous parler des facteurs de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, madame, messieurs? Célia?
Alors, totalement. En fait, les facteurs de vulnérabilité aux addictions. Avant la pause estivale, on avait fait une émission sur ce qu'étaient les addictions pour mieux comprendre comment fonctionnait l'addiction, finalement les mécanismes neurobiologiques. Et avant de passer à d'autres émissions qui détailleront certaines addictions, comme au tabac, l'alcool et j'en passe, bien évidemment parce qu'on verra aussi les addictions comportementales, la question que l'on peut se poser, est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité aux addictions? Et évidemment, il y en a. Les premiers facteurs sont finalement les facteurs génétiques et les facteurs de stress. Et ainsi que le facteur, on va dire, que je mets à l'intérieur, biologique. Biologique, c'est quoi? C'est la puissance addictogène, finalement, de la substance à laquelle on est addict. Il est clair que, finalement, il y a plus... L'addiction à l'héroïne est beaucoup plus forte que l'addiction à la cocaïne. C'est-à-dire, il va se passer quoi? Il y a libération de dopamine. Sauf que la libération de dopamine, d'après les études menées dessus, est plus importante pour l'héroïne que pour la cocaïne. Il en est de même pour le sucre. On parle beaucoup d'addiction au sucre, mais finalement, l'addiction au sucre, la libération de dopamine due à ce qu'on pourrait appeler une addiction au sucre, vous inquiétez pas, on fera une émission dessus, bien évidemment, et moins que celle à la cocaïne, etc. Ensuite, les facteurs génétiques, c'est quoi? Il n'y a pas de gène de l'addiction. On ne va pas dire cette personne a ce gène-là, donc c'est qu'elle va être addict. On parle de vulnérabilité. Ce qui signifie qu'un enfant qui naît d'un parent alcoolique, avec une alcoolodépendance, atteint d'alcoolodépendance, même s'il est enlevé à sa famille biologique et qu'il est élevé dans un autre environnement, il a 54% de risque de plus de devenir addict lui-même à l'alcool. Donc on ne parle que de vulnérabilité, et c'est les études qui l'ont montré, notamment sur des jumeaux. Après, bien évidemment, on peut avoir aussi des mutations génétiques. On sait très bien que s'il y a des mutations génétiques au niveau des récepteurs à dopamine, par exemple, et que le système de récompense ne fonctionne pas correctement et déjà dysfonctionnel, ça peut créer des addictions, bien évidemment. Et ensuite, le stress. Le stress, c'est quoi? Le stress, lorsque vous ressentez du stress, il va y avoir libération de cortisol, c'est-à-dire de glucocorticoïdes. Le cortisol fait partie des glucocorticoïdes. Alors, c'est super d'avoir du cortisol qui est sécrété, qui est libéré. Ça nous permet de mieux gérer le stress, de s'adapter à l'environnement, certes. C'est aussi cela qui nous permet, c'est aussi lui, pardon, qui nous permet de nous lever le matin et qu'on ne reste pas apathique dans notre lit. Mais lorsqu'il y a trop de libération, effectivement, de cortisol, ça va avoir un impact négatif. Donc, de glucocorticoïdes, ça va avoir un impact négatif. Et finalement, les personnes qui vont être stressées vont être plus sensibles aux effets des substances. C'est-à-dire qu'elles vont y être tellement plus sensibles qu'elles vont y répondre beaucoup plus favorablement que quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, finalement, les personnes qui sont atteintes d'addiction, généralement, sont les personnes qui sont les plus stressées. Ensuite, qui résistent moins, du moins, aux événements stressants. Et ensuite, ce qu'il va avoir, c'est que si le stress a eu lieu tôt, notamment en période au niveau de la conception de l'enfant, donc si la mère était stressée durant le développement du fœtus, si ça a eu lieu pendant l'enfance, là où encore le cerveau n'est pas arrivé à maturation chez les jeunes, évidemment, ça va avoir un impact beaucoup plus important parce que ces modifications vont rendre encore plus vulnérables ces personnes-là aux addictions.
Merci Célia.
Mais de rien.
Merci beaucoup. J'étais en train de vous filmer pour faire une petite
chouette
story.
J'adore comme film.
Ah, c'est... Oh bon? Ah bon?
Enfin, ça dépend, en tous les cas. Dans le milieu professionnel, j'aime ça. Non, mais je trouve ça sympa de pouvoir effectivement échanger et montrer un visuel sur la personne qui est en train de parler. J'aime bien associer un visage avec un nom.
Vous faites du théâtre, vous, non ?
J'en ai fait. Il y a quelques années, j'étais jeune, j'en ai fait pour plusieurs raisons et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça m'a appris beaucoup de choses, finalement.
Vous devriez en faire. J'ai une vision, là, d'un seul coup, je vous vois sur les planches. Voilà. Je pense que vous allez rayonner. D'ailleurs, je n'avais pas fait attention, mais vous avez ce petit perfecto. Vous avez une appétence et un amour pour l'art. Je n'ai pas fait attention tout de suite. J'aurais dû, parce que ce perfecto, là, il y a quelque chose aussi d'assez artistique dessus. C'est quoi ?
C'est des tags, effectivement, en fait. C'est
Urban le côté, street, urban, voilà. Urban art, street art, pardon, ça y est. Street art, c'est un artiste que vous connaissez qui l'a fait pour vous ?
Alors, je ne peux pas vous dire parce que c'est un cadeau de ma mère.
Ah, bah oui, je reconnais bien là, votre maman, ouais, j'ai son goût.
Évidemment,
pour
et pour l'art aussi, donc forcément.
Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, comme
tout
on
à
dit.
Fait.
On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec Célia Morès sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Elle a une carrière en télé puisqu'elle adore être filmée, nous a-t-elle révélé, Célia
Morès. Nutri TV bientôt.
Ben oui, Nutri TV, attendez, là on est en train de développer les trucs d'ailleurs. Célia, je vous attends pour une masterclass sur Nutri TV.
Mais très volontiers.
Là, après l'émission, on va se parler un petit peu pour bien préparer ça.
Très volontiers.
Vous allez voir que ça va être au top et aux petits oignons, Nutri TV. Les masterclass, elles sont dispo, donc allez-y. Et d'ailleurs, ça nous permettra de, merci de nous soutenir en allant sur Nutri TV. Et puis vous allez voir, on est en train de préparer plein de belles choses. Il y a plein de nouveaux trucs sur Nutri TV, dont notamment ces masterclass avec des gens incroyables comme Célia Morès qui vont vous délivrer un savoir dont vous me direz des nouvelles. Il y aura un avant et un après. On parle des facteurs de vulnérabilité aux addictions. Vous avez parlé de génétique et de stress, c'était aussi très, très intéressant. Et on peut aussi maintenant aborder l'adolescence et les traits de personnalité qui vont soit s'affiner, soit se confirmer, soit complètement changer.
Alors totalement, mais finalement ça va avec. Alors pourquoi l'adolescence est une période, finalement les adolescents sont plus vulnérables aux addictions que les adultes, entre guillemets? Tout simplement parce que déjà leur cerveau n'est pas encore arrivé à maturation. Il faut savoir que le cerveau arrive à maturation vers l'âge de 25 ans, notamment au niveau du cortex préfrontal. C'est la zone cérébrale qui arrive à maturation la plus tardivement. Et cette zone cérébrale est impliquée dans la planification, l'organisation, la prise de décision. Et donc finalement, si... la zone n'est pas encore tout à fait mature, c'est pour ça qu'on est plus preneur de risque. Quand on est jeune, on est un peu plus preneur de risque, on est un peu plus impulsif. Et la prise de risque, aimer prendre des risques, le fait d'avoir besoin de changement, de la recherche de la nouveauté, l'impulsivité, sont des marqueurs, c'est des traits de personnalité qui sont finalement, qui vont aller dans le sens plutôt de l'addiction. C'est-à-dire qu'en fait, ça va favoriser le comportement addictif. Donc, les adolescents sont plus sujets. De plus, comme leur cerveau n'est pas encore arrivé à maturation, il va se passer quoi ? C'est que l'addiction va peut-être modifier certaines choses au niveau du cerveau. Et évidemment, ça va avoir des répercussions par la suite. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir touché à certaines substances jeunes, il y aura plus d'impact dans sa vie future que quelqu'un qui l'y aurait touché plus tardivement après l'âge de 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact après l'âge de 25 ans. Ça veut tout simplement dire que comme le cerveau n'est plus finalement en développement, il y aura peut-être moins d'impact. Maintenant, les traits de personnalité pour tout le monde. Impulsivité, compulsivité, recherche de nouveautés, recherche des sensations fortes. Ce sont tous des traits de personnalité qui vont avec l'addiction, c'est-à-dire les personnes qui ont ces traits de personnalité-là ont plus tendance à entrer dans l'addiction parce qu'elles vont vouloir tester les produits. Alors quelqu'un qui, comme moi, est plutôt très très évitement du danger, c'est pas question de tester quoi que ce soit, donc peu de risque finalement de devenir addict à quoi que ce soit.
Très bien, donc ça veut dire que ces facteurs de vulnérabilité, on peut les détecter à travers des tests par exemple, pour savoir si ce sont des profils, bon, déjà génétiques, comme vous l'avez dit en première partie, mais après sur les profils compulsifs, impulsifs, voir un peu si ça remplit quelques cases. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous faire la nuance entre impulsif, compulsif ?
Alors, totalement. Impulsif, finalement, c'est que... c'est toujours très dur parce qu'il y a une grosse nuance. Impulsif, c'est en fait on réfléchit pas, on réagit sous le coup de l'action, c'est comme ça. Compulsif, c'est lorsqu'on va pouvoir, ça va plutôt essayer d'avoir ce comportement compulsif pour finalement diminuer les tensions internes. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin, par exemple, d'acheter sans compter, de manger du chocolat, la tablette en chocolat de manière compulsive, c'est-à-dire qu'en fait, sans pouvoir s'arrêter pour combler le vide qu'on a, ces tensions internes qu'on a. Alors c'est vrai que ça va généralement ensemble, parce que si on va être impulsif à consommer quelque chose ou acheter quelque chose, forcément, ça peut être compulsif, mais impulsif, ça peut être juste, j'achète une robe. Compulsif, ça peut être, je ressors avec tout le magasin, on va dire. Voilà, il y a une petite nuance, mais c'est vrai que c'est finalement, c'est des facteurs de vulnérabilité. Et c'est vrai que ce que vous disiez, oui, il y a des tests de personnalité qui permettent effectivement de voir si la personne est plutôt recherche de nouveautés, recherche des sensations fortes. Donc ça peut être des marqueurs, sauf que ces tests de personnalité veulent dire certaines choses, mais pas tout dire, parce que c'est pas parce qu'on va avoir recherche de nouveautés, sensations fortes, qu'on va devenir addict, on est bien d'accord. Sauf que, évidemment, ça conduit plus à essayer de nouvelles choses, éventuellement à développer une addiction. Et après, il y a aussi des profils. C'est-à-dire qu'il y a les personnes narcissiques qui ont tendance à être vulnérables aux addictions parce que justement, elles ont besoin d'être admirées, reconnaissance, être admirées. Donc, ce serait peut-être chez ces personnes-là, on retrouverait pas mal d'addictions. Et pareil, chez les personnalités antisociales ou sociopathes qui sont intolérants à la frustration. Et chez ces personnes-là, il y a 30%, je crois, de mémoire, c'est 30% environ. En tous les cas, il y a un certain nombre de pourcentages importants chez ces personnes chez qui on peut détecter des addictions.
Célia Morès.
Oui.
On va marquer une petite pause.
Volontiers.
Et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Ça, c'est important de reconnaître ces facteurs de vulnérabilité. C'est important pour soi, pour notre entourage, pour nos enfants, parce que plus on les détecte, moins on va essayer de s'y exposer, ou plutôt on va essayer de les traiter, de les prévenir, afin que justement, voilà, facteur de vulnérabilité aux addictions, on ne tombe pas dans une addiction. On a vu que la génétique et le stress avaient un vrai rôle à jouer, que l'adolescence, donc les traits de personnalité pouvaient déjà laisser présager quelques signaux et de facteurs donc de vulnérabilité. Et enfin, évidemment, il y a, j'allais vous poser la question, mais quand j'ai vu le programme, je me suis dit que j'allais attendre, évidemment, que vous le dérouliez. Il y a, c'est l'influence de l'entourage, les transgressions, voilà, tout ce qui est impact, enfin, l'environnement proche.
Alors, totalement. Il y a tout ce qui est environnement, tout ce qui est aussi culturel. Donc, déjà, c'est vrai que, par exemple, en France, culturellement, on va boire du vin, on va peut-être initier un jeune enfant, un jeune adolescent au vin, au champagne, aux autres types d'alcool. Donc, déjà, effectivement, ça veut dire tester un produit avec la possibilité, s'il y a un souci de vulnérabilité, d'entrer en addiction. Mais ça va être aussi l'histoire personnelle d'un individu, c'est-à-dire qu'un individu qui a subi un inceste, qui a subi des deuils, qui a subi des divorces dans son enfance, enfin, qui a une histoire assez dramatique, va-t-on dire, c'est des facteurs de vulnérabilité pour développer des addictions, peut-être pour fuir ou pour toute autre chose. Donc on sait que ces personnes-là sont plus vulnérables, plus sensibles et ont plus de risques de rentrer en addiction. C'est vraiment en termes de vulnérabilité, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on a vécu ça et qu'on va rentrer en addiction, qu'on va forcément devenir addict. Ça veut dire que chez les personnes qui sont atteintes d'addiction, qui souffrent d'addiction, on retrouve ce type de profil peut-être dans l'enfance, etc. Il va y avoir aussi la pression de l'entourage. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement pour l'addiction au tabac, ça peut être ça. On en parlera dans une prochaine émission, mais l'addiction au tabac, au départ, les gens, quand ils commencent à fumer, tous ceux qui ont expérimenté la cigarette ne sont pas addicts, parce que généralement, c'est aversif. Ça pue, ça sent mauvais, justement, moi, ça pue, ça sent mauvais, ça donne même des nausées, enfin, c'est pas agréable.
Ça pue, ça sent mauvais, quelle est la différence?
Ben voilà, c'était le synonyme à redire.
C'est pas la même chose. Moi, franchement, je préfère quand vous dites ça sent mauvais.
Ça sent mauvais.
Ça pue, ça vous va pas. C'est pas dans, je me vois pas
mais
dire
pourtant,
des phrases comme
c'est,
ça.
C'est vraiment pas très agréable. On a les mains, les cheveux, etc. Enfin, c'est quand même une catastrophe. Et si on devient addict, c'est parce que justement, il y a un apprentissage et qu'on a reconsommé peut-être sous la pression de ses camarades, de ses amis, aller prendre une cigarette, etc., etc. On s'y est habitué et le fait d'être confronté de nouveau à plusieurs reprises, ça peut mener à l'addiction. Donc effectivement, il y a cet entourage, la pression, pareil pour l'alcool par exemple. C'est vrai que lorsqu'on est en soirée, on est jeune, On peut boire un verre, deux verres, allez, reprends un verre, etc. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres types, effectivement, de substances dont finalement la consommation peut être amenée de cette manière-là. Donc, pour justement faire partie du groupe social, donc sous cette pression-là. Il y a aussi la transgression, hein, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on est jeune, on aime bien transgresser. Donc, on a l'impression d'être peut-être un petit peu, pour les plus jeunes, un petit peu caïde en disant « on veut transgresser ». Donc, même si ça ne va pas très loin, mais quand même, ça peut conduire à des addictions. Alors, le tabac, l'alcool, certes, parce que peut-être que les parents ont interdit de le consommer, mais notamment quand, lorsque c'est totalement interdit, parce que le tabac, l'alcool, par exemple, c'est des drogues, on va dire, drogues entre guillemets, bien évidemment, licites, autorisées par la loi. Le cannabis ne l'est pas, mais effectivement, là aussi, ça peut être la pression et le fait de faire de la transgression et de faire quelque chose d'interdit, tout en voilà, sachant que c'est pas ce qu'il y a de pire, certes, mais quand même, ça a un impact sur la santé et c'est un véritable problème de santé publique. Donc effectivement, il y a l'environnement de la personne, son histoire personnelle, son vécu, et aussi tout ce qui va être culturel, donc soit finalement comme en France, avec le culte du vin, voilà, par exemple, mais aussi, comme je l'ai dit, la société autour qui va peut-être, cette pression-là, qui fait que ça va conduire peut-être ces personnes-là, qui seront peut-être influençables ou pas, qui seront peut-être influencés à consommer. Et une fois qu'on a consommé, qu'on a goûté à quelque chose, c'est parce qu'on a goûté quelque chose qu'on peut devenir addict. Effectivement, si on ne goûte pas quelque chose, qu'on ne teste pas, on ne risque pas de devenir addict. Voilà, tout simplement.
Oui, enfin, vaut mieux ne pas tenter quand même.
Il y a des choses qu'il vaut mieux pas tenter, c'est ça. C'est-à-dire qu'autant il y a des choses qu'on peut tenter, c'est pas grave. Et puis dans le sens où c'est autorisé, c'est vrai que par exemple l'alcool, il n'y a aucune raison de ne pas boire lorsque c'est des fêtes, etc. Après, il y a la différence entre être consommateur ponctuel de temps en temps et normal, un consommateur comme tout à chacun, notamment dans notre pays, j'allais dire, et ensuite passer à l'alcoolodépendance. Il y a quand même un grand, grand gap entre les deux.
Vous buvez du vin, vous, je le sens.
Du champagne plutôt, mais du vin blanc, d'accord. Mais même des cocktails, mais de manière modérée. C'est-à-dire qu'on est tous là, de temps en temps, à vouloir prendre un verre de manière modérée. Le problème, c'est lorsque ces personnes-là ne boivent plus de manière modérée et ont besoin de beaucoup plus et deviennent justement addicts. C'est là le problème. C'est pas tant la consommation pour ce type de produit qui est festif et voilà, c'est...
À consommer avec modération. Mais est-ce que votre maman était stricte? Parce que là, vous parlez des transgressions, tout ça. Bon, j'ai envie d'en savoir plus sur vous. Voilà, on a envie. Est-ce que votre maman était stricte? J'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce que parce que ma maman est quand même assez disciplinée. J'ai remarqué qu'elle avait, et on embrasse, moi j'adore votre maman, et
elle aussi.
Elle a fait d'ailleurs, elle a réussi son éducation, ça il y a aucun souci. Mais du coup, j'imagine que c'était propice pour vous à la transgression.
Alors non, parce que justement, j'ai eu la chance d'avoir ma mère et mon père lorsqu'il était vivant, qui était à la fois strict, mais pas si strict que ça. C'est-à-dire qu'il me laissait libre, d'abord de faire mes choix, mais surtout, on m'expliquait, et ça c'est important. Et là, je m'adresse aux parents, d'expliquer pourquoi il ne faut pas faire. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu, ça c'est interdit parce que c'est interdit. Parce que ça, justement, ça va forcer à la transgression. Moi, j'avais mes amis à l'école, lorsque j'étais au lycée, les parents leur avaient interdit de fumer. Maintenant, ma mère ne m'a jamais interdit de fumer. Le jour où j'ai voulu tester, c'est elle qui allait me chercher mon paquet de cigarettes, en me disant « je préfère te l'acheter plutôt que tu en prennes une à quelqu'un et on ne sait pas ce qu'il aura mis dedans ». Mais on m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas fumer, les conséquences que ça avait. Et là, de fait, on me l'a laissé, mon libre choix, tout en m'expliquant. Donc, je pense que c'est ça. Un jeune, un enfant, et même très très jeune, comprend les choses. Si on lui interdit, il va avoir envie de faire. Si on lui explique pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire, quelles sont les conséquences, mais après qu'on lui dit « si tu as envie de te bousiller la santé, par exemple, vas-y », généralement, il ne le fera pas. Et là, c'est important. Donc, j'ai pas eu ce côté strict à m'interdire.
Ça m'étonne pas. Effectivement, expliquer
pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire, quelles sont les conséquences, quitte à montrer des vidéos de personnes qui consomment certaines substances,
ça
voilà, etc.
Moi, j'explique à mes enfants pourquoi, parce que c'est comme ça. Voilà, l'explication, parce que c'est comme ça.
Mais il vaut mieux expliquer parce que finalement, sinon, on a envie de transgresser, on comprend pas pourquoi on nous interdit. Moi, je les voyais en train de se parfumer, prendre des chewing-gums, etc. Ben, moi, non, j'avais aucun souci, parce que justement, je n'avais pas cet interdit-là. Mais je ne l'ai pas fait parce que je savais très bien quelles étaient les conséquences et que peut-être parce que dans ma personnalité, j'évite les risques, je n'avais aucune envie d'attraper un cancer, de développer d'autres maladies, d'avoir des problèmes cardiovasculaires, effectivement. Donc, je savais très bien les conséquences de mon choix. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu faire mes choix en ma propre conscience.
Eh bien, merci beaucoup.
Pour mais de rien, avec
pour,
plaisir.
À la fois ces confidences, qu'on aime bien aussi, voilà, connaître les gens davantage, et chers auditeurs, je sais que vous aimez ça, et puis bah, pour toutes ces informations que vous nous avez partagées aujourd'hui pour cette émission consacrée aux facteurs de vulnérabilité qui sera en podcast disponible à partir de ce dimanche 18h. Merci Célia.
Merci Fabrice, merci à tous.
Je crains, c'est pas sûr, hein, mais j'ai peur qu'on se retrouve la semaine prochaine en distanciel. Bon,
je suis très triste.
Mais oui, bon, on va voir ce qu'on peut faire, évidemment. On va voir ce qu'on peut faire. Mesdames, messieurs, vous restez avec nous car c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir, Célia.
Au revoir, Fabrice.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.